9h24, notre invité, un des porte-parole encore cette année de la semaine pour la déficience, semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Vincent Guillaume-Otis, bonjour.
Bonjour.
On le sait, là, on se répète un peu, vous vous impliquez parce que vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu concrètement avec,
de près, oui.
Ouais, avec votre frère.
Exact.
Ma première question ce matin, puis on va remonter à l'époque de Walmart, parce que ça avait fait beaucoup de vagues. Quand la compagnie avait décidé de retirer des quarts de travail à des employés déficients qui étaient là souvent depuis très longtemps et qui voyaient comme ça leur vie s'effondrer puis leur routine complètement changer. Quand vous avez entendu parler de ça, de dire pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui leur passe par la tête, ça a été quoi votre réaction, connaissant les déficients puis sachant ce que ça représente pour eux?
J'étais consterné. Je veux dire que ça fait partie, nous, de ces chevals de bataille-là, de pouvoir donner cette juste place-là à ces gens-là qui vivent avec une déficience intellectuelle dans notre monde. Puis sur le coup aussi, on se sentait complètement impuissant parce que Walmart représente c'est une multinationale. Hein. On a l'impression que ces gens-là prennent des décisions de très très loin de nous et comme on se le disait un petit peu avant d'entrer en onde, c'est comme des espèces de postes budgétaires. On tire la plug, c'est fini. C'était à l'autre bout du spectre de ce qu'on n'arrête pas du combat qu'on mène, nous, c'est-à-dire reconnaître ces gens-là pour ce qu'ils sont et pas comme des objets ou des espèces de pions, là, tu sais. Et puis ça me fait de la peine aussi pour les gens, pour la famille, puis tout ça. Puis c'est comme pas reconnaître ces employés-là. C'est des employés exemplaires, des employés modèles dans un milieu de travail. L'assiduité, le positivisme que ça amène dans un milieu de travail, les retirer comme ça, moi, c'est ça, j'étais consterné.
Puis qu'est-ce que ça représente pour eux? C'est-à-dire de pouvoir, comme ça, avoir 2 jours, 3 jours par semaine un emploi qui les amène à se déplacer vers le lieu de travail.
Bien, ça représente pour eux la même chose que pour nous, c'est-à-dire c'est une raison de vivre. On ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. En tout cas, c'est un mélange, un heureux mélange des deux. C'est pas différent que pour nous. C'est des objectifs, c'est des défis. Et je veux dire, leur enlever ça, après ça, c'est comme dire, ben toi, tu restes à la maison, puis tu attends, puis tu fais quoi? Tu écoutes la télé, tu es sur ta tablette, puis tout ça. Je veux dire, c'est pas... il y a pas... Pour moi, je qualifie pas ça différemment de si on... C'est la même chose pour moi que de couper des gens dans une usine ou de couper des postes ailleurs, que ces gens vivent avec une déficience intellectuelle ou pas. Ça reste, pour moi, inhumain, peu importe.
OK. Quand on parle de personnes qui ont des déficiences intellectuelles, quand ils sont enfants... Puis peut-être je me trompe complètement, mais on a comme l'impression qu'il existe quand même un certain nombre de services. Ou en tout cas, même si les cas lourds ne sont pas suffisamment reconnus. Mais plus on avance vers l'âge adulte et plus on dépasse 18, 19, 20 puis 25 ans, là, c'est plus compliqué.
Oui, effectivement. C'est aussi un cheval de bataille pour la société québécoise, la déficience intellectuelle. C'est qu'au-delà de 21 ans, les ressources n'existent plus pour ces gens-là. Donc, pour la famille, pour les parents, pour les tuteurs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ces gens-là ont besoin de services particuliers au-delà de 21 ans. C'est pas parce que tu as 21 ans que tu deviens adulte au sens de la loi que tout d'un coup, tu n'as plus besoin de ces ressources-là et de cette aide-là. Et un travail comme ça chez Walmart... Ça reste comme un catalyseur, ça canalise justement ces énergies-là. Ça donne comme une routine, ça permet de travailler, ça donne une raison de se lever puis d'aller rencontrer les gens, de sociabiliser aussi. Là. C'est le contact avec la société. Fait que, donc, c'est ça. Après 21 ans, c'est très difficile, il n'y a plus de ressources. Ça fait qu'on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de mettre en branle ou de sonner des cloches au niveau des différents gouvernements, de faire... il faut continuer le travail.
Avez-vous l'impression que ça évolue? C'est-à-dire que dans l'image populaire ou dans la perception du public, qu'il y a peut-être moins de regards négatifs qu'avant?
Oui, je pense que oui. Je pense que ça évolue. On est dans une ère où on parle beaucoup plus des choses. Je pense qu'il y a peut-être moins de tabous.
Ça veut dire quoi, ça?
Ben, je pense qu'en tout cas, les tabous existent encore, mais on en parle un peu plus, puis on est peut-être capable de les faire tomber, ou peut-être réseaux sociaux existants, ou depuis maintenant, les gens ont l'opinion des gens, peut-être a plus une résonance, peuvent plus prendre la place publique plus facilement qu'avant. Les moins nantis ont peut-être un peu plus de place au niveau de leur opinion, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai. Fait que Moi, je pense que oui. Cela dit, comme Annick Larose, qui est la directrice de la société, disait, ça prend des fois 10 minutes pour briser 10 ans de combat. Fait que, il suffit des fois d'une parole mal placée ou d'un mot mal dit ou d'une sortie un peu comme... puis là, tout ça est un peu à recommencer. T'sais, c'est très difficile. Et je pense que l'intolérance, cette espèce de mal-là, existe encore. Il est là. Il faut continuer le travail. Il faut continuer à essayer de purger la plaie, là, si vous me permettez.
On dirait qu'une déficience physique ne suscite pas le même genre de réaction qu'une déficience intellectuelle. Quelqu'un qui est dans fauteuil roulant, je ne sais pas, là, puis c'est une chose. Mm. Il ne sera pas victime du même genre de remarques que quelqu'un qui est déficient intellectuellement.
C'est vrai. C'est vrai, je absolument. Et pourquoi maintenant, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais ça c'est vrai, biche. Mais il faut aussi, on est cette année avec pour la semaine, on a mis en ligne un outil aussi pour une espèce d'aide-mémoire, un guide pour trouver les bons mots pour parler de la déficience intellectuelle. Ça m'amène à parler de ça aussi parce que souvent on va tout mettre ensemble, tu sais, on va faire la santé mentale, l'autisme, tout ça va comme être la déficience, alors que ça c'est séparé, ça c'est pas des choses qui sont différentes, ça peut cohabiter, mais ces choses sont très différentes. Mais pour répondre à votre question, effectivement, et je sais pas pourquoi, ça reste comme une méconnaissance, puis la semaine de la déficience intellectuelle sert à ça aussi, sensibiliser, mettre les bons mots, en tout cas parler des choses correctement, là, tu sais.
Souvent, on dit que ce qui fait évoluer, c'est de voir dans les médias, par exemple, des groupes minoritaires, de voir... Vous venez de réaliser la mise en scène des Souris et des Hommes. Bon, c'est un classique. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est deux personnages, dont un qui est déficient. Vous connaissiez évidemment la pièce avant, il y a longtemps.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a attiré avec cette mise en scène-là, de dire, là, j'ai une fenêtre d'opportunité, comme on dit?
Oui. Bien... Pour être très honnête, la première raison qui a fait en sorte que j'ai décidé de monter ça au théâtre, ça reste purement littéraire. C'est vraiment parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Mm-hmm. Pour moi, c'est une grande histoire d'amour fraternel d'un point de vue plus macroscopique. Après ça, il y a des sous-raisons. Et quand je dis sous-raisons, c'est pas négatif, exactement. Et bien sûr, c'est en le faisant, puis en le travaillant, puis en dirigeant les acteurs, que je me suis rendu compte que ma motivation était beaucoup plus personnelle que ça. C'est comme au départ. Puis, tu sais, il y a eu l'anecdote, là, la rencontre dans les loges avec Michel Dumont. J'ai entendu parler qu'il voulait monter ça. Ça reste comme un concours de circonstances aussi. Michel voulait monter la pièce. Je l'ai entendu le dire, je suis allé le voir, puis ça s'est présenté. C'est pas moi nécessairement qui est allé le voir avec cette pièce-là, parce que je veux absolument monter ça. C'est arrivé. Après ça, comme je vous dis, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, je voulais le faire. Mais en le travaillant puis en le montant, au fil des répétitions, j'ai fait « OK, j'ai un attachement qui est très personnel à ça. » Je me suis mis sans étouffer les acteurs avec ça parce que ça serait devenu trop lourd. Mais tu sais, Benoît McGuinness qui joue le rôle de George, qui est l'ami de Lenny. Je veux dire, moi, c'est sûr que j'ai un rapport de presque miroir avec George. Je veux dire, George, c'est comme moi avec mon frère, tu sais. J'essaie de garder cette distance-là, mais plus ça allait, plus j'ai essayé aussi de rendre justice puis d'y aller le plus simplement et plus humblement possible pour essayer justement d'en faire sortir tous les grands thèmes d'amour et d'humanité dans la pièce. Justement pour que, c'est ça. Puis parce que c'est pour voir aussi à quel point on a évolué, c'est plus la même chose. Mais en même temps, dans Les Souris des Hommes, dans l'espèce de hangar dans lequel ils vivent, il y a beaucoup de respect. C'est assez rare que les personnages des Souris des Hommes, les personnages secondaires, vont commencer à dire « Toi, t'es un débile, si vous me permettez l'expression, ou t'es... » C'est pas pour ça. Au contraire, il accepte comme il est, tu sais. Fait qu'à travers la pièce, il y a ça aussi, cette affaire-là, de dire c'est un employé, c'est un travailleur qu'on accepte, il travaille, il est fort. C'est pas pour ces raisons-là qu'on va le rejeter. En tout cas, pas à prime abord. On le rejette pas à prime abord. Il est là, il est fort, il est capable de travailler, on l'accepte.
Et parfois, ses remarques sont d'une simplicité désarmante aussi.
Oui, oui.
Parce que ça aussi, c'est important.
Oui. C'est une simplicité, oui, mais d'une vérité aussi. Il y a quelque chose de très simple, de très juste. Puis on a beaucoup, moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle dans le sens...
Qu'est-ce que vous avez appris de votre frère, par exemple?
Ben, qu'est-ce que j'ai appris? Des fois, ça va avoir l'air cliché, ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est le retour à l'essentiel, là, sais, on est un peu perdu dans une espèce de maelstrom de travail, de performance, puis d'image, là, tu sais. Moi, dans mon métier, beaucoup aussi. Mais moi, mon frère, quand j'ai contact avec lui, quand je lui parle, mais il me ramène à la vraie, sur le plancher des vaches. Puis encore une fois, je le dis, c'est pas négatif, au contraire. C'est quelque chose de concret qu'il faut pas perdre de vue. Le rapport au moment présent aussi. Ça, c'est aussi, ça a l'air cliché, mais c'est vrai. Puis quand je le dis, il faut que je me justifie. Puis c'est terrible qu'on soit obligé de le dire aujourd'hui. Mais c'est ça, ce rapport-là au moment présent. Puis c'est ça que les gens qui ont une déficience intellectuelle apportent aussi dans le milieu de travail. Quand je disais tantôt l'assiduité, ces gens-là viennent, ils sont contents de travailler, ils sont là, ils sont présents, ils font le travail avec tout leur cœur, mais ils sont heureux de le faire. Et ça, ça a une résonance, puis ça a un rayonnement dans le milieu de travail. Tout d'un coup, tu fais, ben là, cette espèce de grisaille dans lequel on peut être, ben ça disparaît, ça s'évapore. Mais mon frère m'a apporté ça aussi. Mon frère me donne aussi tout ce rapport d'ouverture à l'autre. C'est sûr qu'il m'a amené ça parce que.
Il vous ramène sur la terre, des fois.
Il me ramène sur la terre, effectivement, ça, c'est sûr. Puis, je veux dire, mon frère, il n'y en a pas de préjugés par rapport à l'autre, qui soit, qui a une autre, qui vienne d'une autre communauté ethnique, d'une autre orientation sexuelle. J'ai jamais entendu mon frère porter un jugement comme on peut tous porter ou comme. Fait que ça ramène, ça m'éveille beaucoup. Il m'éveille beaucoup par rapport à ça.
Il faut parler du District 31 un peu. Grosse année.
Grosse année, pour Vincent Guillaume puis pour Patrick Bissonnette aussi.
non, mais c'était solide tout ça. Mais ouais. D'abord, la période où on vous a moins vu, là, mis à part quelques apparitions,
ouais.
Bon, je comprends que c'était voulu, c'est-à-dire je prends une pause parce que c'était quand même pas mal de travail.
Ouais.
Avez-vous déjà pensé à dire, moi, c'est trop là, puis je veux faire autre chose, je vais quitter, puis ça a été une belle aventure, mais ça s'arrête maintenant?
Bien... disons que la mise en scène est bien arrivée, est bien tombée, au sens où moi, je suis un artiste qui est issu d'une école de théâtre. Je suis un artiste de théâtre, c'est mon premier métier. Fait que j'avais besoin d'y retourner. Ça faisait 2 ans et demi que je faisais que presque de la télévision, puis beaucoup de télévision. Fait que c'est bien arrivé, puis ça faisait 4 ans que je le savais. Fait que les choses se sont bien pointées, mais... Dès que j'en suis sorti du District 31, c'est comme, tu sais, l'expression, on peut sortir quelqu'un de la campagne, mais on sort pas de la campagne du gars. Il y a une drogue dans cette espèce de, une espèce d'effervescence, là, quand t'es là-dedans, quand t'en sors, tu fais, wow, il y a comme, t'es en manque, il y a quelque chose où, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est des grosses journées, on le sait, là, mais ça reste comme, moi, je compare ça, j'ai toujours comparé ça à une espèce de même si j'en fais pas, à une espèce de Ironman ou de la compétition de haut niveau. Quand t'en fais, quand t'es dedans, quand tu t'entraînes, il y a des moments où tu te dis, j'en peux plus, j'arrête tout. Mais quand tu le fais, puis quand t'arrives au bout, comme là, on arrive au bout de la saison numéro 3, je sais que quand je vais en sortir, je vais faire, ouf, il était temps, mettons. Mais après une semaine, je vais faire, ah ben là...
Il arrive quoi l'an prochain?
Ben oui, c'est ça, mais aussi, je vais avoir hâte d'y retourner, tu sais, je vais avoir hâte de retrouver la... Ça reste une belle camaraderie. C'est District 31, c'est vraiment une famille. Ça aussi, on le dit beaucoup, mais ça particulièrement, parce qu'on est ensemble presque 12 heures, 10 à 12 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 150 jours, on se côtoie tous les jours.
Il y a un épisode qui a été évidemment marquant, c'est l'arrestation de Dubo. Et tant au niveau, j'allais dire, du texte, que la réalisation, ça ressemblait à un ballet, une chorégraphie, on l'arrête, la porte s'ouvre, les enquêteurs entrent.
Ouais.
Ça devait être quelque chose à tourner, ça.
Oui, oui, ça a été super, mais on l'a vu. Ça, c'est Catherine Thérien qui a réalisé ça. Puis je me rappelle, quand on l'a lu, on a tous vu cette espèce de plan-séquence magnifique et l'espèce de ballet, comme vous dites. Mais en même temps, en lisant ça, on a fait « OK », parce qu'on n'a pas qu'une scène à faire par jour, hein, c'est une quotidienne. Fait qu'on en tourne une dizaine. Alors de rentrer ça, de réussir à faire ça, il y a une espèce de défi, un autre qui arrive même après 3 ans. Mais tout le monde était tellement... C'est ça, c'est une belle équipe. Tout le monde, la création est vraiment au centre du processus. On veut réussir à rendre la série toujours meilleure. Fait, quand tu arrives avec ça, qui représente un gros défi, on ne se le cachera pas. Là, sur un plateau américain, une scène comme ça aurait pris 4 jours à tourner. Hein. Nous autres, on l'a fait en, je sais pas, en 2 heures peut-être. Mais là, tout le monde se serre les coudes, puis on y va, puis on a réussi. Puis je me rappelle, ça a peut-être pris 3-4 fois avant qu'on y arrive. Puis je me rappelle aussi de la réaction. Une fois qu'on l'a tourné, l'espèce d'élan de joie de la part de tout le monde, toute l'équipe, même si ça fait 350 jours qu'on tourne, un peu, il y a cette même encore passion-là qui existe, puis c'est beau, ça.
Convaincu que la saison va encore finir par un punch, je
sais. Hey, oui, je peux. Vous êtes... Pardon? Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien sur vos chaises et sur vos fauteuils.
À partir de quel épisode faut s'accrocher solide?
Oh, à partir de maintenant. Accrochez-vous à partir de maintenant. Okay.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, merci.
Vincent Guillaume Otis, on va faire la pause 9h39, puis après, c'est le sujet de Tribune téléphonique.